Vous écoutez
RMC.
Il est 6h sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est le retour de Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, les conséquences de la chaleur.
Avec encore des noyades mortelles dans la Manche et dans le Val d'Oise, où vous allez l'entendre, les maires font un constat d'impuissance. Encore des fusillades mortelles hier soir. Elles ont fait 2 morts à Nantes et à Grenoble, vous aurez toutes les infos. Et encore une journée compliquée pour les Français à Roland-Garros, seulement 3 qualifiés pour le 2e tour hier, mais le jeune Moïse Kouamé, 17 ans, a impressionné.
Et on fait le constat que les noyades mortelles se multiplient depuis le début de la vague de chaleur.
Il y en a encore eu 2 hier, donc dans la Manche, sur une plage de Julouville, et dans le Val d'Oise, à Cergy, où un jeune de 19 ans est mort en tentant de traverser l'Oise à la nage, dans une zone qui était non autorisée à la baignade. Et c'est d'ailleurs le constat que font de nombreux maires dans de nombreuses villes. Vous allez l'entendre ici, au bord de la Marne, où sont rendus Antonin Guillon et Cassandre Brault pour RMC.
Baignade interdite, le site n'est pas surveillé, il n'est pas aménagé.
Un panneau d'avertissement, comme on en trouve souvent le long du rivage, ici, à Vaires-sur-Marne, Daniel Vatelet est le maire de la ville.
Ce que les jeunes ne comprennent pas souvent, c'est qu'il peut y avoir des courants invisibles, il peut aussi y avoir des objets dans l'eau. Il y a de la vase aussi, donc si jamais ils restent plantés dans la vase, ils ne pourront plus remonter et puis ils peuvent se noyer.
Mais juste à côté...
Vous savez que c'est interdit la baignade ?
Le maire interpelle un groupe en train de faire des plongeons dans la rivière.
Il y a un jeune comme vous qui s'est noyé, il est resté bloqué dans la vase et s'est noyé.
On essaie juste de se rafraîchir un petit peu.
Les cheveux trempés, Anto sort à peine de l'eau.
Bah, on est conscient qu'il y a un risque. Moi je sais que je sais nager.
Un peu plus loin, des cris se font entendre. Un groupe d'une 20aine de jeunes est réuni au bord de l'eau.
Il fait chaud, du coup on est obligé de se baigner. On n'a pas conscience du danger, en vrai ça passe par-dessus la tête. D'abord on était à un autre lac tout à l'heure, et la police ils sont venus, ils nous ont dit de partir et tout, et après on est venus ici.
D'où le sentiment d'impuissance que Daniel Vatelet partage avec d'autres maires.
Ils savent que c'est interdit et pourtant ils y vont quand même. Donc là, je pense qu'avec la meilleure volonté du monde, on est un peu dépourvu.
Le maire d'une commune voisine a même décidé d'installer des barbelés le long du rivage pour dissuader les baignades sauvages.
Et c'est aussi l'idée du maire de Tours après une noyade mortelle en début de semaine dans la Loire. On a encore battu plus de 400 records de chaleur hier, c'est ce que vient nous dire Géraldine, avec dans de nombreuses villes. Eh bien, les records de la veille qui ont été battus ou égalés. Conséquence, c'est la ruée sur les climatiseurs et les ventilateurs en ce moment, d'après les infos qu'on a recueillies à RMC. Les devis pour faire installer une clim sont en hausse de 60% par rapport au début du mois chez Engie, un des acteurs majeurs du secteur. Et à ce sujet, d'ailleurs, on fait encore le constat que beaucoup de bâtiments ne sont pas équipés face à ces chaleurs. Exemple, à la gare de Nantes, pourtant rénovée récemment en 2020 avec une grande mezzanine. Amélie Courtet s'y est rendue, immersion avec elle pour RMC.
Quand on rentre dans la gare, on est légèrement rafraîchi. Là maintenant, je monte jusqu'à la mezzanine vitrée où tout le monde attend son train. Dès qu'on arrive là-haut, par contre, l'air est lourd.
Il y a notamment des ventilateurs qui brassent de l'air chaud.
40 degrés ici, 5 de plus qu'à l'extérieur.
On a des gouttes de sueur qui coulent sur nos fronts. On a très très chaud.
Bah, tu vois, je m'étais dit, on va peut-être aller au sauna aujourd'hui, mais finalement, pas la peine. On est là, dans la gare de Nantes.
Des voyageurs épuisés, Valentin est assis par terre, il joue à cache-cache avec le soleil.
Il faut essayer de trouver des coins d'ombre, même s'il n'y a vraiment pas d'air, ça reste invivable.
D'autres s'éventent avec une feuille, s'agglutinent comme Ninon près de gros ventilateurs.
Ça me sauve parce que sinon je me serais liquéfié.
À ce point-là.
On sent qu'à tout moment on peut partir dans les vapes.
Des malaises, il y en a déjà eu parmi les commerçants, mais tous ont reçu pour consigne de ne pas parler.
L'année dernière, j'avais le droit à un ventilateur de la SNCF. Cette année, ils ont refusé.
Seul Pierre, vendeur, finit par accepter.
C'est encore plus compliqué. Déjà parce que les fortes chaleurs arrivent encore plus tôt. Mais pour l'instant, je vois pas d'amélioration. Du coup, ça me fait très peur pour l'été.
La SNCF promet d'installer un film sur les vitres d'ici quelques semaines pour réduire la température.
Des gares et des trains mal équipés, des écoles mal isolées. Et chez vous, comment ça se passe? Vous songez peut-être à installer une clim. C'est ce chiffre qu'on vous dévoile ce matin sur RMC. La hausse des devis de 60% sur une semaine. Venez témoigner ce matin au 3216. Vous êtes les bienvenus.
Il est 6h04 sur RMC, sur RMC Story. 2 fusillades ont fait 2 morts hier soir à Grenoble et à Nantes.
Alors à Nantes, c'est un jeune d'une 20aine d'années, écrit le journal Ouest France ce matin, qui a été abattu de 2 balles dans la tête dans le quartier de la Halvec. C'est le 3e mort en moins d'un mois sur fond de narcotrafic. Narcotrafic qui continue de tuer, déplore la mère Johanna Roland. À Grenoble, le bilan est 1 mort et de 3 blessés dans une fusillade qui a éclaté devant le local du club de foot du quartier du Mistral. Ça s'est passé près d'un point de deal. Écoutez ce qu'en dit William Maury du syndicat Alliance Police à Grenoble.
Au vu du quartier, au vu de la manière d'opérer et au vu des personnes ciblées, on est certainement sur un règlement de compte ou sur un coup de pression sur la cité Mistral aujourd'hui, parce que c'est une cité à Grenoble qui est connue, reconnue comme un haut lieu du trafic de stupéfiants. Donc ça, c'est une première chose. Une des personnes ciblées serait de la famille très très proche de narcobandits qui ont habité cette cité-là. On est sur une banalisation des armes à feu aujourd'hui qui fait froid dans le dos. Là, c'est toute la France qui est touchée, hein. De Grenoble à Marseille, de Marseille à Nantes. Il n'y a plus une ville aujourd'hui qui échappe à ça.
Une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique. Ça, c'est la peine qui a été requise hier à Paris au procès d'un ancien animateur périscolaire qui était jugé pour des agressions sexuelles sur 9 enfants et 2 collègues dans une école maternelle du 11e arrondissement. C'était le premier procès public dans ce scandale du périscolaire à Paris.
Il est 6h05 sur RMC et c'est ce matin que les grands rouleurs vont pouvoir demander la fameuse aide du gouvernement pour faire face à la flambée des carburants.
D'un montant qui a été doublé de 100 euros à demander sur le site des impôts à partir de 8h ce matin pour 3 millions de Français. Mais donc tout le monde n'est pas concerné, hein, Victor Joannin.
Cette aide est réservée aux travailleurs, salariés ou indépendants. Pour en bénéficier, il faut donc avoir perçu un salaire ou des bénéfices commerciaux ou agricoles et c'est l'année 2024 qui est prise en compte. Munissez-vous de votre avis d'imposition de l'année dernière qui vous permettra d'indiquer votre revenu fiscal de référence par part. Si ce revenu est inférieur à 16 880 euros, vous êtes éligible. Cela correspond à 1 508 euros net par mois pour une personne seule. Il faut aussi déclarer sur l'honneur que vous utilisez votre voiture, thermique ou hybride, pour aller au travail, avec au minimum 30 km aller-retour ou 8000 km annuels. L'aide sera versée dans les 10 jours directement sur votre compte bancaire et gare aux tricheurs, l'administration pourra réaliser des contrôles a posteriori.
Et on l'entend depuis ce matin au 32-16, vous nous dites que parfois que vous dépassez un tout petit peu ce seuil et que vous êtes malgré tout en difficulté. Vous réagissez encore, vous composez le 32-16 et vous envoyez vos messages sur le WhatsApp au 06 12 424 424.
Le résultat de la soirée en football, vous avez vécu ça sur RMC, c'était pas fameux, match nul 0-0 entre Saint-Etienne et Nice dans le match aller du barrage pour une place en Ligue 1. Aucun tir cadré pendant cette partie, le match retour aura lieu vendredi à Nice.
À 6h06, c'est encore une journée mitigée pour les Français hier à Roland-Garros.
C'était la fin du premier tour. Il y en avait 9 engagés. 6 ont été éliminés à l'image de Loïs Boisson, sensation de l'année dernière, balayée cette fois en 2-7 par la Russe Anna Kalinskaya. Dans la soirée, c'est Clément Tabur qui n'a rien pu faire, sorti en 3-7 par l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial. 3 Français sont quand même qualifiés pour la suite, notamment le jeune Moïse Kouame, pépite de 17 ans, qui a sorti en 3-7 le Croate Marin Cilic, Léna Marjac.
Il a été impressionnant de maîtrise, de calme. 17 ans, premier Roland-Garros et première victoire en 3-7.
Beaucoup d'émotions, c'est exceptionnel. Et je pense pas jouer à ce niveau de jeu sans ce soutien énorme que vous m'avez accordé. Donc merci beaucoup.
Un court Simone Mathieu sous le charme de Moïse Kouame. C'est le futur prodige du tennis français selon le public tricolore.
Franchement, il est trop fort. La précocité, 17 ans, monstrueux.
Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un joueur français à ce niveau-là.
Il sert à 2000.
Il est dingue.
Dingue parce qu'en plus, son adversaire hier n'était pas un inconnu. Marin Cilic, certes 37 ans, mais ancien vainqueur de Grand Chelem. Et face à Moïse Kouame, il n'a pas fait le poids.
Moïse a mérité de gagner. C'est dur à dire de savoir à quel point il est fort, surtout à son âge. Il a montré beaucoup de calme. Un superbe niveau. Il a très bien joué durant les points les plus importants, ce qui montre aussi le caractère du joueur.
Son caractère ne reflète pas son âge. D'ailleurs, il le dit lui-même, comme Kylian Mbappé, on ne lui parle pas d'âge.
Quand on est sur le terrain, on est sur le terrain, on pense plus à quel âge on a, on pense juste à faire ce qu'il faut faire pour gagner.
Prochain tour demain face au Paraguayen Adolfo Daniel Valiero, 71e joueur mondial.
Alors en attendant, il y aura 3 Français en lice aujourd'hui pour le début du deuxième tour qu'on vivra à partir de 11h. Vous en avez l'habitude, hein, les premiers échanges sur RMC et sur notre Radio Digitale RMC 100% Terre battue.
Merci Quentin Vinet, c'était le journal de 6h et on va tout de suite accueillir Jonathan au 32-16. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Jonathan, vous vivez en Vendée à Saint-Aubin-la-Plaine et vous avez installé la clim à la maison, vous en êtes content?
Je ne reviendrai jamais en arrière. Ça m'a coûté 1200 balles ce que j'ai installé moi-même et franchement, c'est que du bonheur.
Ok. Alors.
Et on parlait de cet afflux de demandes et de vies là, sur la semaine dernière. Vous y êtes pris au dernier moment ou vous avez un peu anticipé?
Non, moi j'avais fait l'année dernière quand il commençait à faire chaud. Et cette année qui fait chaud très de bonne heure, je peux comprendre effectivement que tout le monde veut mettre la clim. Maintenant, je pense que les gens ne voulaient pas mettre parce que c'était très énergivore. Mais dans les pays du Sud comme l'Espagne ou l'Italie, tout le monde a la clim. C'est une fausse idée. De toute façon, on y viendra, tout le monde y viendra.
Jonathan, vous disiez que vous l'aviez installé vous-même, cette clim. On avait un frigoriste tout à l'heure au 32-16 qui nous disait attention à pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Ça s'est bien passé, vous, l'installation?
Ouais, une demi-journée.
Une demi-journée, quand même. Ouais, c'est un peu de boulot.
Ah, bah oui, sinon après vous pouvez payer puis vous le faites installer vous-même. Ça fait par quelqu'un d'autre. Mais après, il n'y a rien de compliqué non plus. Faut juste. Il y a un cahier à suivre et puis vous suivez le truc, quoi.
Ah oui, mais parfois il y a des cahiers à suivre, c'est pas si facile que ça. Hein. Je pense aux meubles. Alors là, c'est les meubles qui me viennent en tête parce qu'on n'est pas tous très doués de nos mains. Vous, vous nous dites, c'est à la portée de tout le monde ?
Tout le monde, non. Il faut quand même bon bricoleur quand même.
Bon, eh ben écoutez, merci en tout cas Jonathan d'avoir témoigné ce matin et puis restez à l'écoute d'RMC à 7h50. C'est la voix de droite, Louis Sarkozy, qui va revenir sur la climatisation. La climatisation, c'est la civilisation, c'est son parti pris ce matin. Je pense que ça va vous plaire, Jonathan. Et si vous aussi, vous avez fait installer une clim, si vous êtes en train de faire les devis, en ce moment même, vous composez le 3216 comme Jonathan ou vous écrivez sur le WhatsApp RMC 0612 424 424, il est 6h10.
Et c'est l'heure. C'est le moment de vous inscrire à notre jeu de la liste des 26 pour tenter de remporter 10 000 euros ou le pack de Coupe du Monde, vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel, boîte Lego du trophée. Vous venez sélectionner un joueur dans la liste des 26 et vous repartirez forcément avec un super cadeau. Pour jouer, c'est très simple. Vous envoyez dès maintenant liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes. Il est 6h10. On se retrouve à 6h15.
Ouais, il est presque 6h11, donc on va dire 6h16. Okay. Victor, est-ce que tu as des messages, je crois, nombreux hein, sur la chaleur qui arrive depuis ce matin sur le WhatsApp de l'émission au 0612 424 424?
Et on a notamment le message de Gaëtan, et on pense à lui évidemment et à toute sa corporation. C'est un boulanger. Alors, un petit état des lieux, il fait quasiment 40 degrés devant le fournil, évidemment, température difficilement supportable. On a aussi Virginie qui nous parle des noyades, vous savez, cette série noire qui continue ces derniers jours et elle nous dit qu'il faudrait prendre en compte la non-gestion de la frustration désormais chez les jeunes et qui les amène à faire des excès.
Dans un instant, c'est le choix de la rédaction. Bonjour Grégoire Morelli.
Bonjour Élise.
Les drones, c'est la nouvelle arme incontournable en Ukraine, au Moyen-Orient. Est-ce que la France en dispose dans son arsenal ?
Oui, elle en a, mais il en faudrait sans doute plus et puis surtout, il faudrait surtout plus de pilotes pour les faire voler ces drones.
Votre enquête dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h14 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
RMC, le choix de la rédaction.
Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ont permis de se rendre compte de l'importance des drones. Ces engins sont devenus une arme désormais incontournable lors d'un conflit.
Bonjour Grégoire Morelli.
Bonjour Élise, bonjour Victor.
Alors, première question, Grégoire. Où en est la France dans le développement de ces nouvelles armes ? Vous avez pu faire un état des lieux.
Oui, tout à fait. La France, des drones, elle en a près de 3000. L'année prochaine, elle compte en commander 15 000, mais pour faire voler ces engins, bien sûr, il faut des pilotes. L'armée française n'en a pas assez. Elle veut en recruter 6 000 d'ici la fin de l'année. Alors moi, j'ai pu assister à un exercice d'un pilote et de son opérateur qui ont pu m'expliquer comment on s'exerce pour devenir pilote, justement, avec des petits drones pour passer ensuite à des plus gros modèles, dits 5 pouces.
Allez, décollage.
Ok, visuel sur le véhicule.
Le drone arrive un peu partout. Et donc, en voyant des collègues qui faisaient du drone first person view, j'ai voulu m'y mettre. Et...
Ah, tout droit, t'es bien dans l'axe. Structure à ton initiative. Détruit.
Pour avoir un niveau qui soit convenable et qui nous permette d'évoluer en sécurité, il y a un entraînement qui est régulier. Et avant de pouvoir faire évoluer un drone de manière sécuritaire de ce format, nous, on demande au minimum 20 heures de vol sur simulateur. Et après, ils vont commencer sur des drones un peu plus petits. Et après, assez vite, on les met sur les drones 5 pouces.
Et alors Grégoire, par rapport à d'autres pays, comment se situe la France ?
Alors comparé à l'Ukraine qui est en guerre, il n'y a pas photo. Kiev produit 4 millions de drones cette année. Elle a prévu d'en produire 7 millions l'année prochaine. En revanche, les États-Unis, qui disposent du plus grand budget militaire au monde, n'ont que 100 000 drones à l'échelle d'un si grand pays, et c'est peu.
Ça veut dire qu'on peut considérer que la France est en retard sur le développement et la production des drones ?
Alors pour le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, dans le contexte actuel, tout va bien. La France suit cette innovation de près.
Je conteste la notion de décalage. Je la conteste au sens où l'Ukraine et la Russie sont en guerre, mettent toutes leurs forces dans cette évolution. Et donc, nous qui sommes en paix, on peut pas s'organiser dans ce match. Je peux pas demain demander que les fabricants de machines à laver se mettent à fabriquer des drones et qu'on travaille en 3-8, etc. L'enjeu, c'est pour toutes les armées qui ne sont pas en guerre, c'est d'arriver à suivre cette évolution extrêmement rapide qu'il y a autour des drones et plus largement de la robotisation sur les champs de bataille.
Et ces drones, il faut les fabriquer comme les drones FPV. C'est des drones qui se pilotent avec des lunettes de vue à la première personne. Il faut passer pour ça par des acteurs privés que j'ai pu rencontrer également. Le directeur marketing de l'entreprise Safran, Michael Soula, reconnaît que ça avance, mais il reste encore quelques obstacles.
Effectivement, sur la FPV, il y avait peut-être un peu de retard. Les armées françaises, avec la DGA, ont créé le pacte drone hein, avec les industriels français. Ça fait maintenant à peu près 2 ans. Donc sa structure, ça existait déjà avant. Il y avait déjà cette relation-là. Il faut peut-être un peu la formaliser, peut-être regagner un peu de souplesse dans les cadres réglementaires, parce que aujourd'hui, la mise en œuvre, l'entraînement, le développement ne sont pas des choses aisées. Un industriel, pour vivre et pouvoir des chaînes de production, il faut des commandes. Aujourd'hui, la difficulté de tous les industriels, c'est effectivement le flux de commandes qui reste encore limité.
En fait, Grégoire, on l'entend, hein, y a un changement de stratégie dans l'armement français qui est en train d'être opéré.
Ah, jusqu'ici, on fabriquait des missiles high-tech, des avions, de l'artillerie haute précision, un secteur dans lequel la France a un grand savoir-faire, mais c'est pas forcément adapté à la guerre d'aujourd'hui, comme l'explique Marianne Renaud. Elle est experte dans le secteur des drones et de l'aéronautique. Elle parle, elle, de massification, écoutez.
On a été surpris sur l'intensité des attaques de drones. Une telle massification, c'était un peu moins anticipé. La guerre en Ukraine nous a permis de voir que peut-être, au lieu d'avoir un avion ou un drone multimission, il était peut-être utile d'avoir aussi des petits drones qui étaient plus dédiés à une certaine mission, mais donc qui étaient plus simples, moins chers et plus faciles à produire.
Ah bon, Grégoire, parlant du nerf de la guerre, comme on dit, développer ces drones, ça serait un moyen de faire des économies?
Ah ben oui, il faut y repenser, parce que récemment, au Moyen-Orient, par exemple, les Rafales français déployés aux Émirats Arabes Unis ont abattu plusieurs drones, mais ils l'ont fait en tirant des missiles type Mika. Ces missiles, ils coûtent presque 1 million d'euros et ils ont été utilisés sur des engins qui ne coûtent que 30 000 euros en moyenne, Victor.
Merci beaucoup Grégoire Morelli pour cette enquête passionnante à retrouver sur le site et l'application d'RMC. Ça vous fait peut-être réagir au 32-16, n'hésitez pas. Mais en attendant, on a Gaëtan qui nous appelle depuis la Seine-Maritime à Saint-Léger-du-Bourg-de-Nice. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Élise, bonjour tout le monde.
Gaëtan, vous êtes artisan boulanger et il doit faire chaud en ce moment chez vous.
Ah bah oui, bonjour à tous. Déjà, moi, je le vois déjà quand je sors du travail, il peut être à peu près à midi, je sors du travail, je me dis, ah tiens, il fait frais dehors.
Par rapport à devant le four, ça...
Je regarde mon téléphone, il fait 30 degrés, donc c'est-à-dire que dans le labo, on est à peu près au 40, et pas loin des fours, on est peut-être quasiment 50.
40 degrés, donc, vous restez combien de temps par jour dans ces 40 degrés-là?
À 8 heures, à peu près, au maximum 8 heures.
Ah ouais. Donc, comment vous tenez le coup?
Je bois de l'eau. Hier, par exemple, en 8 heures, j'ai bu 3 litres d'eau. J'ai rempli et vidé 2 fois ma bouteille.
Et donc, alors, est-ce qu'il y a la clim, Gaëtan, à la fois dans la boulangerie et à la maison?
Alors, à la maison, il y a un ventilo qui tourne devant moi. Mm-hmm. Et la clim, elle est au magasin.
Ouais.
Donc, nous, on est sans clim. Alors, on en rigolait hier. On disait, les vendeuses nous envient en hiver parce que forcément, elles ont froid. Nous, on est bien. Et en été, c'est nous qui les avons fait. Moi, j'ai demandé à mon patron si je pouvais déménager dans la chambre froide. Il a dit non. Dommage. Mais je le vois, ça a des répercussions sur mon travail. C'est que je dois me dépêcher parce que forcément, les pâtes fermentent beaucoup trop vite sinon. Ouais. Je cours. Du coup, j'ai encore plus chaud. Et ça peut avoir aussi des difficultés sur ma capacité à avoir des enfants. Je vous jure que c'est vrai. C'est que, j'ai eu un maître d'avantage que énormément d'avoir eu des enfants parce que il avait tellement chaud toute l'année que, on va dire que la quantité et la qualité diminuaient, quoi. Donc ça peut vraiment avoir des grosses répercussions, mais on peut rien y faire. Malheureusement, on supporte et on boit beaucoup d'eau. Et quand on rentre à la maison, on prend une bonne douche.
Bon, merci beaucoup Gaëtan d'avoir témoigné ce matin au 32-16. On vous souhaite bon courage pour affronter cette chaleur à la maison et surtout devant le four de votre boulangerie en Seine-Maritime. Il est 6h20. Froncez les sourcils, c'est Phil Collins, Aurel Gage. C'est un monument,
bien sûr.
Un monument qui chantait en 91 I Can Dance, I Can Sing. 35 ans plus tard, l'ironie est cruelle. Le batteur iconique de Genesis ne pourra pas se produire en novembre prochain pour son entrée en solo au prestigieux Rock and Roll Hall of Fame. Tout simplement refusé d'y jouer, c'est ce qu'il a dit à nos confrères britanniques de la BBC. Il faut être en pleine forme pour faire ce genre de choses. Et on se souvient en effet de l'ultime concert de Genesis en mars 2022 à Londres. Il était resté cloué sur une chaise pour chanter. Et c'est son fils Nick qui avait pris le relais à la batterie. Mais il y a quand même de l'espoir ce matin. Phil Collins a remonté monter la pente au niveau de sa santé. C'est ce qu'il dit à la BBC. Je suis en meilleure santé que je ne l'ai été depuis un moment, à tel point qu'il envisage de remonter sur scène, peut-être pas pour une tournée, mais au moins peut-être pour une nuit. Le Britannique, toujours très actif musicalement, confie avoir beaucoup d'idées de paroles qu'il note par-ci par-là, quelques morceaux finis même, donc il y a matière à s'y mettre, conclut-il, et il y a de l'espoir pour nous autres, et notamment pour mes parents, que j'embrasse.
Évidemment, j'allais le faire pour vous, parce que vous n'y êtes pas allé, j'allais le faire pour vous. Voilà. 6h22 sur RMC. Élise, justement, tu nous rappelles les trois grands titres de l'actu ce matin.
Et la France qui suffoque sous ce dôme de chaleur, avec 13 départements en vigilance orange, et plus de 400 records mensuels battus ou égalés hier. C'est ce matin qu'ouvre la plateforme pour demander l'aide grand rouleur. Face à la flambée des prix des carburants, aide qui va doubler pour passer à 100 euros. Rendez-vous à partir de 8 heures sur le site des impôts pour les 3 millions de travailleurs concernés. Et puis l'exploit à Roland-Garros du jeune prodige français Moïse Kwame, qui passe le premier tour à seulement 17 ans. En revanche, pas de miracle pour Loïs Boisson, la sensation de l'an dernier. Trois Français sont en lice aujourd'hui.
6h22 sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Et vous êtes nombreux à réagir sur le WhatsApp RMC au 0612 424 424. Tiens, un message d'abord de Cyril. On parlait de ces clims et de ce boom des clims la semaine dernière. On le voit dans les chiffres. Et Cyril, elle nous dit, c'est la solution à court terme. Ce qu'il faut vraiment faire, ce serait isoler correctement nos bâtiments, même si on sait ça coûte un certain nombre d'argent. Et puis on a Alex qui nous parle de cette prime carburante, cette aide gros rouleur. La plateforme ouvre aujourd'hui. Il n'y aura pas le droit parce qu'il gagne 2000 euros. Et surtout, il nous dit cette limite des 15 km aller-retour, elle est faite pour Paris où tout est proche. Mais quand on habite un peu à la campagne, les 15 km, on les dépasse très rapidement.
Merci Victor. Aurel Gage, notre docteur du morning, s'est installé avec la consultation gratuite. De quoi on parle ce matin?
Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à vos conditions de sommeil avec ces températures caniculaires. Pourquoi vous dormez mal? Et surtout, quelles solutions peut-on vous proposer afin que vous dormiez mieux?
À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h25 sur RMC, RMC Story. Et sortez la carte vitale.
RMC, consultation gratuite.
Docteur Aurel Gage, hier, des centaines de records de chaleur ont été dépassés. On en parle depuis ce matin. Plusieurs départements sont toujours en vigilance orange canicule. Et pourtant, il faut continuer à vivre, il faut continuer à travailler et à dormir. Mais justement, est-ce que cette chaleur, elle a un impact sur notre sommeil?
Oui, cette chaleur, elle a un impact sur notre sommeil. Ça a été bien démontré et sur deux paramètres, que ce soit sur la quantité de sommeil ou même sur la qualité de sommeil. Première chose, la quantité de sommeil, ça a été bien démontré sur des études de grande ampleur, sur plus de 100 000 patients. On a bien vu que vous aviez une diminution de la quantité de votre sommeil lorsque vous aviez une augmentation des températures. Or, pour rappel, je vous rappelle qu'en France, on dort déjà pas assez. Puis la deuxième chose, ça va être la qualité de sommeil. Vous allez être perturbé durant les phases les plus importantes de votre cycle, que sont justement le sommeil lent et le sommeil paradoxal dans les phases profondes du sommeil lent, où là vous allez avoir justement cette problématique. Eh bien vous allez avoir du mal à aller dans ces phases-là qui sont finalement les plus importantes dans le sommeil.
Et alors c'est quoi l'impact concret de la chaleur sur le sommeil?
Alors, l'impact concret de la chaleur sur le sommeil, ça va être par exemple sur la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil que vous produisez normalement. Il faut savoir que l'une de ses activités, ça va être de faire qu'au niveau des vaisseaux, eh bien vous allez avoir les vaisseaux qui vont se dilater pour tout simplement permettre au sang de faire évacuer le plus de chaleur possible, pour faciliter le fait que la température corporelle s'abaisse. Mmh. Puisque pour dormir, pour faire une induction, il faut avoir la température corporelle qui s'abaisse. Sauf que là, il fait déjà chaud. Donc ça veut dire que là, vous avez déjà les vaisseaux qui sont dilatés. Donc la mélatonine ne peut pas faire son effet. Donc vous avez des difficultés à vous endormir. Et le problème, c'est qu'en ayant des difficultés à vous endormir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez déjà avoir moins de temps pour vos différentes phases. Le problème aussi qui va se passer, c'est que par exemple, pendant la phase de sommeil paradoxal, vous allez avoir votre thermostat qui se désactive. Le problème de ce thermostat qui se désactive, ça c'est physiologique. C'est que vu qu'il fait très chaud, la température de votre corps va remonter, ça va vous réveiller et donc vous allez avoir un sommeil qui va être encore plus fragmenté, donc de mauvaise qualité et vous allez mal récupérer.
Mais alors docteur, en deux mots, comment on fait pour mieux dormir?
Eh ben malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Je vais pas vous donner une pilule que vous prenez, ça va refroidir votre corps. La meilleure chose, c'est d'abord d'essayer d'aérer la pièce, d'ouvrir les volets. Il n'y a pas de consensus particulier sur le soir. Il n'y a pas de consensus particulier sur la douche. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'une douche chaude dans les 3 heures, pas juste avant de se coucher, ça a un intérêt pour détendre le corps et pour faciliter l'endormissement. Ça a été bien démontré. La douche froide, l'intérêt que ça a, c'est vraiment si la chaleur est insupportable. L'objectif, c'est de vous faire redescendre en température et ensuite vous allez vous coucher. Et surtout, essayez de ne pas changer vos habitudes de sommeil, de ne pas prendre d'alcool et de vous coucher à des horaires habituels pour vous.
Merci docteur pour vos conseils précieux. Il est 6h28 et c'est l'heure de jouer avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous.
Stéphanie qui nous appelle depuis Pithiviers dans le Loiret. Est-ce que vous avez identifié le mot caché, Stéphanie?
Alors oui, j'ai trouvé le mot lambin.
Eh oui, félicitations.
Bravo Stéphanie.
C'était bien le mot lambin qui décrit une personne qui agit avec mollesse et lenteur. Donc tout l'inverse du morning RMC évidemment.
Oui, tout à fait. Je vous écoute tous les matins, donc il n'y a pas de
problème. C'est gentil. Eh bien pour vous récompenser, on vous gagne cette montre Kelton, marque icône de pop de l'horlogerie française. Elle fête ses 70 ans. Bravo à vous Stéphanie.
Merci beaucoup, je suis super contente. Merci
Bonne
beaucoup.
Journée Stéphanie, à très bientôt.
5-7, le Morning RMC.
L'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Victor, bonjour Élise, bonjour à tous.
Et à la une, ils sont passés aux aveux.
Les deux jeunes mineurs soupçonnés d'avoir étranglé Théo, 11 ans, retrouvé mort sur les bords de la Vilaine dimanche, tué pour avoir volé du matériel de pêche. La chaleur à chaque jour, son lot de records au nombre de 400 battus ou égalés hier. Et ça va continuer aujourd'hui. 13 départements sont en vigilance orange canicule. Et pas une frappe cadrée. Match nul et vierge au bout de l'ennui. Nice et Saint-Etienne joueront leur avenir en Ligue 1 vendredi après un match aller de barrage soporifique hier soir.
Le choc à Rennes après la mort du jeune Théo, 11 ans.
Retrouvé mort étranglé à proximité de la Vilaine pour avoir volé des leurres de pêche. Raison évoquée par deux jeunes mineurs, un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans, passés aux aveux hier en garde à vue, présentés ce matin au tribunal judiciaire en vue de leur possible mise en examen. Et ce qui surprend ce matin à Rennes, c'est donc la futilité du mobile de ce meurtre. Célestin Boujard avec Martin Lange.
À quelques pas des berges de la Vilaine, là où le drame a eu lieu, Chantal, une habitante du quartier, vient d'apprendre comment les deux adolescents soupçonnés du meurtre se sont justifiés.
Tout est choquant, mais là, on arrive au bout du bout, quoi.
Pour se venger et récupérer du matériel de pêche, voilà ce qu'ont déclaré les mineurs de 15 et 16 ans.
On arrivait là pour des appâts étranglés, c'est invraisemblable, il n'y a plus de limite.
Le fils d'Anas est dans le même club de judo que la victime de ce meurtre. Jamais il n'aurait imaginé une telle violence à quelques mètres de chez lui.
C'est une ambiance de quartier qui est vraiment très bien, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de violence et quand on voit la cause, ça n'a pas de sens du tout.
Si le nombre d'homicides commis par des mineurs n'augmente pas ces dernières années, la violence chez les jeunes, elle, est de plus en plus forte, comme le constate le professeur Grégory Michel, docteur en psychopathologie.
On voit qu'il y a davantage de vol avec violence, d'agression, et c'est souvent des jeunes qui ont une faible tolérance à la frustration. Donc vous voyez que ces motifs comme ça futiles peuvent déclencher des frustrations assez sévères qui peuvent, pour l'adulte, paraître complètement dérisoires. Alors que pour eux, ça va prendre des proportions absolument incroyable.
Le professeur s'inquiète également de voir que ces violences sont commises par des mineurs de plus en plus jeunes.
Deux fusillades à quelques heures d'intervalle hier soir. D'abord à Grenoble, 4 personnes ont été ciblées. L'une d'elles a été tuée, les 3 autres sont blessées. À Nantes, un jeune homme a été abattu, touché à la tête par 2 personnes circulant à scooter. Cela se passe 10 jours après seulement la mort d'un adolescent de 15 ans dans une autre fusillade, avec à chaque fois la piste du règlement de compte évoqué sur fond de trafic de drogue.
Et ces jeunes, et ces victimes jeunes, parfois, vous l'entendiez dans le reportage avec des mobiles futiles, on en reparlera. Notez bien ce rendez-vous à 7h40 dans Apolline Matin. C'est Stéphane Clerget qui sera l'invité d'Apolline de Malherbe. Il est pédopsychiatre et auteur du livre « Les mots de vos ados ».
Il est 6h33 sur RMC, un éducateur sportif toujours en soins intensifs dans le Var.
Entraîneur d'une équipe de foot en moins de 13 ans à Sifour, agressé dimanche, violemment frappé au visage lors d'un match de foot par le père d'un enfant de l'équipe adverse. L'acte de violence au bord des terrains largement dénoncé par les clubs locaux. Reportage Anna Jojard.
Des banderoles ont été accrochées aux abords du stade. On peut y lire « Le foot doit rassembler et non détruire » ou encore « Le sport, oui, la violence, non ». Ici, la consternation est partagée par tous, y compris les parents.
C'est inadmissible, on ne devrait jamais en arriver à ce stade-là.
On est choqués parce qu'on n'est pas là pour se battre. Une conséquence qu'on peut craindre, c'est qu'on n'ait plus la possibilité de participer quand il y a des matchs.
La victime, un entraîneur de 48 ans, est décrite comme une personne appréciée et investie dans la vie du club.
De voir un ami dans un état comme ça, sur un terrain de foot, c'est un petit peu choquant et navrant. De dire ce qui lui est arrivé.
arriver peut également m'arriver.
Wissem est éducateur dans le même club que la victime et depuis cette agression, il se dit prêt à arrêter les matchs en cas de tension.
S'il y a trop de pression sur mes gamins et que ça crée un risque de conflit, j'ai rien à jouer en fait. Il n'y a pas de projet Mbappé. C'est des petits qui sont là pour se faire plaisir et avoir surtout plein de souvenirs dans la tête.
Comme lui, Laurent, éducateur, souhaite que cette agression enclenche une réflexion sur les violences dans le foot amateur.
Il faut que ça s'arrête, parce que la prochaine fois, ça peut être pire. Donc c'est vraiment pour être mobilisé pour faire comprendre aux parents qu'il faut plus que ça arrive.
Des coachs qui prévoient de se réunir dans les prochains jours pour trouver des solutions concrètes à ce problème.
La France continue de suffoquer. On a encore battu des records de chaleur hier, les records de la veille pour un mois de mai au nombre de 400 à l'aube d'une nouvelle journée qui s'annonce toujours plus chaude. 13 départements de l'Ouest sont ce matin en vigilance orange, de la Manche à la Gironde. Il n'y a pourtant pas d'urgence sanitaire, dit la ministre de la Santé Stéphanie Rist.
Et la double peine, c'est le retour des moustiques qui prolifèrent avec cette météo estivale.
Comme à Toulouse, où la mairie a décidé d'agir et de libérer volontairement des moustiques mâles stériles afin d'enrayer la reproduction de moustiques tigres, une méthode qui a déjà fait ses preuves. Ailleurs, reportage de notre correspondant sur place, Jean-Wilfried Forquès.
Lorsque la chaleur succède à des pluies abondantes, les moustiques sont de retour et c'est le cas en ce moment, près d'un cimetière du centre-ville, jamais très agréable pour les habitants du quartier.
On est complètement infesté, on ne peut plus garder les fenêtres ouvertes, on ne peut rien faire.
Il y en a beaucoup, surtout à côté des cimetières, avec l'eau abondante, apparemment, l'eau résiduelle, oui, il y a des pontes. Oui.
Alors, pour mettre fin aux pontes et à la prolifération des moustiques tigres, la start-up Terratis, présidée par Clélia Oliva, a lâché hier dans cette zone infestée 200 000 moustiques stérilisés à l'aide de rayons X.
Des moustiques mâles stériles qui vont aller se disperser et s'accoupler avec les femelles sauvages qui sont présentes sur le site. En s'accouplant avec elles, ils vont faire en sorte que les femelles ne pondent que des œufs vides. Et on va ainsi pouvoir empêcher la prolifération du moustique tigre.
Et tout cela sans le moindre produit nocif, comme le souligne la conseillère municipale Anna Maria Tripicchio-Rogier.
Pas de pesticides, pas d'insecticides, des expérimentations dans le plein respect de la nature.
En 12 mois, à Brive et Montpellier, une expérience identique a permis de réduire de 50% la population de moustiques.
Et l'autre conséquence de cette chaleur, c'est la pollution. Risque de pollution dans plusieurs régions comme à Lyon et Paris avec des limitations de vitesse imposées. À retenir également l'ouverture aujourd'hui de la plateforme d'aide à destination des grands rouleurs, 100 euros réservés aux travailleurs selon certains critères. Réponse à la crise des carburants à l'heure où les cours du pétrole repartent à la hausse ce matin avec la crainte d'un regain de tension au Moyen-Orient. Frappé lundi, l'Iran accuse les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu menaçant les discussions de paix. Match nul et vierge hier soir entre Saint-Etienne et Nice. Barrage aller d'accession en Ligue 1. Tout se jouera donc vendredi sur la Côte d'Azur. Match retour à huis clos. Sans ses supporters, Nice espère trouver l'énergie nécessaire pour rester dans l'élite. Écoutez l'entraîneur des Aiglons, Claude Puel.
On n'avait pas nos supporters ici à Saint-Etienne et puis on les aura pas en retour. Donc il faut que la force et je dirais l'esprit sorte de notre groupe et qu'on soit très très solide.
Et puis encore cette mauvaise journée pour les Français à Roland-Garros avec seulement 3 qualifiés hier sur 9 engagés à suivre aujourd'hui. 3 Français engagés au second tour avec un duel Humbert-Alice. Roy affronte Djokovic. Ce sera à vivre sur RMC et la radio digitale 100% terre battue.
Évidemment. Les courses, Thibaut, aujourd'hui, c'est sur l'hippodrome de Strasbourg.
13h55, le 4, Shriara est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 6, Concerto, le 4 et le 6.
Merci Thibaut Texter. Prochain point sur l'actu sur RMC, ce sera à 7h. D'ici là, on va faire un détour par le 32-16. Partons du côté de la Charente. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour Victor.
On parle de ce boom des clims. Je vous rappelle le chiffre si vous nous rejoignez sur RMC. Ce chiffre qu'on vous dévoile en exclusivité. Plus 60% de nombre de devis pour installer une climatisation. Ça, c'était la semaine dernière par rapport à la semaine précédente. Vous, Thierry, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas forcément la meilleure des solutions. Hein.
Non. Déjà, il faudrait commencer par arrêter de goudronner partout, de végétaliser, parce qu'il n'y a pas à dire quand on est sous l'ombre d'un arbre, il fait déjà beaucoup plus frais. Et puis moi, je m'interroge quand même sur les clims. Pour faire du froid, alors on jette du chaud. Et des millions de clims qui tournent, ça fait une chaleur phénoménale qui est rejetée dans l'atmosphère. Est-ce que ça n'a pas une influence aussi sur les températures?
Clairement, oui, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Hein. Dans un monde idéal, ouais. Il faudrait d'abord refaire toute l'isolation des bâtiments. Il faudrait qu'il n'y ait plus de bouilloire thermique.
Bien sûr.
Ça serait l'idéal. Malheureusement, tant que c'est pas le cas, à noter quand même qu'il y a eu des progrès sur les clims. Elles sont moins polluantes, mais évidemment que rejette
la
chaleur.
Ouais, pas de la pollution, mais au niveau de la chaleur. L'autre interrogation, c'est que l'hiver, sauf erreur de ma part, on a toujours des petites alertes d'EDF qui disent, oula, on va avoir un pic de consommation, on ne sait pas si on va pouvoir répondre à la demande et il risque d'y avoir des coupures. Et là, on nous dit qu'il faut essayer des clims, des pompes à chaleur, des machins, et on nous dit même que EDF fournit plus d'électricité que ce qu'on en consomme, je ne comprends plus rien.
Parce qu'on a maintenant beaucoup d'électricité qui viennent du solaire. Et donc forcément, en hiver, on a moins de production. Et là, en ce moment, au contraire, on a beaucoup de production.
Ah ben oui, effectivement, j'ai pas pensé à ça.
Thierry, vous faites... Oui, Géraldine, notre experte sur la question qui est autour de la table avec nous. Thierry, vous faites comment, vous, au quotidien, là, pour affronter ces fortes chaleurs en cette fin de mois de mai?
Je suis les conseils des ministres. L'hiver, ils nous disent de mettre des cols roulés. L'été, je mets des t-shirts. Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On essaye de s'habituer. Je lutter contre, je pense pas que ça soit la meilleure des solutions. Par contre, je serais pour des installations dans les hôpitaux, les EHPAD et tout ça. Il y a pas de sujet, il y a pas de discussion. Mais pour nous, bien portant entre guillemets. Ah, c'est bon, on va transpirer un petit peu, ça dure une semaine et puis il y a pas catastrophe quoi.
Alors, le problème, Thierry, c'est que ça dure une semaine, mais que ça dure de plus en plus de semaines consécutives avec des températures de plus en plus hautes.
Et ça arrive de plus en plus tôt surtout.
On est bien d'accord, mais justement, là, c'est vrai que ça a été violent. En une semaine, on est passé du chauffage
à la clim,
ouais. Mais si on peut donner des petits conseils, faire des tours dans les magasins pour se rafraîchir un petit peu, et puis chercher à s'habituer. Je sais que c'est compliqué, surtout la nuit, mais nous, voilà, on n'a pas de clim et on fait avec. Ça va passer.
Les centres commerciaux, les bibliothèques, tous ces lieux de refuge climatisés, le cinéma aussi, et parfois même le boulot, certains. Ça peut en arranger certains.
Un peu trop.
Voilà. Merci beaucoup Thierry pour votre appel ce matin au 32-16. Il est 6h40.
Et dans un instant, sauter d'un pont, piquer une tête dans un canal, se baigner près d'un barrage, des gestes qui peuvent être mortels. Je vous rappelle, un jeune de 19 ans en est mort hier dans l'Oise à Cergy. Notre invitée dans un instant, c'est Sophie Charlotte Valentin, directrice territoriale nord-est chez VNF, Voie Navigable de France.
Et puis elle est là, la bande du morning, avec Virginie Fulpin pour la causerie.
Et moi j'ai décidé de clasher Arthur Rimbaud ce matin, si on est sérieux quand on a 17 ans.
Et Anthony Morel pour C'est déjà demain.
Les enceintes connectées qui deviennent enfin intelligentes, je vous expliquais pourquoi.
Ah il était temps qu'elles soient intelligentes. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h44 sur RMC, sur RMC Story. On vous le disait, vous l'entendiez dans les journaux, un jeune homme de 19 ans s'est noyé hier après-midi à Cergy, dans le Val d'Oise. Il se baignait avec des amis dans l'Oise. La porte-parole du gouvernement parle de 7 décès, dont au moins 5 noyades en lien avec l'épisode caniculaire. Et ça, c'était avant les deux drames d'hier, celui du Val d'Oise et celui aussi dans la Manche.
Bonjour Sophie Charlotte Valentin.
Bonjour.
Vous êtes la directrice territoriale nord-est chez VNF, Voie Navigable de France. C'est l'opérateur d'État qui gère le domaine navigable fluvial. Ces deux drames, ces deux nouveaux drames, c'est ce qu'on peut redouter chaque fois que la température grimpe. Il peut y en avoir d'autres ?
Ah oui, malheureusement, nous constatons une hausse des noyades mortelles en 2025 par rapport à 2024 et l'arrivée très très tôt dans la saison de ces fortes chaleurs nous rend inquiets et nous appelons à la plus grande vigilance pour cette année.
Et comment on explique ces hausses ?
En fait, avec...
Oui.
Alors avec ces fortes chaleurs, on est tous tentés d'aller chercher de la fraîcheur. Et vous parliez tout à l'heure d'aller dans les cinémas, dans les bibliothèques, mais un bon moyen de trouver de la fraîcheur, c'est aussi d'aller à proximité des fleuves, des rivières, et même en ville, à proximité des canaux ou des rivières. Et si on peut se promener au bord des canaux, il est absolument dangereux et vraiment interdit de se baigner dans les zones de baignade qui ne sont pas surveillées et qui ne sont pas prévues pour la baignade. Ce sont des zones dans lesquelles effectivement ces jeunes se sont baignés ce week-end et sont malheureusement décédés.
Et même dans des rivières qui paraissent parfaitement calmes, etc., vous dites les risques sont invisibles.
Exactement. Nous déplorons malheureusement des décès ce week-end de deux jeunes de 17 ans, l'un dans la Marne, l'un dans la Seine. Et puis les décès que vous avez rappelés, la Seine, elle peut être baignable dans certaines conditions, à certains endroits, quand c'est précisé et surveillé. Mais partout ailleurs, si la baignade n'est pas prévue, ce sont des risques effectivement qu'on ne voit pas. Ça peut être des courants violents, même des courants de fond, parce qu'il y a des ouvrages, des barrages, des écluses, etc., qui génèrent des courants. Et puis il peut y avoir une très mauvaise, avec la très mauvaise visibilité dans l'eau, des obstacles, des objets. Par exemple, au pied des piles de pont, vous savez, il y a certains qui s'amusent à sauter des ponts. Et ben en dessous des piles de pont, il peut y avoir des objets qui sont tombés, des barres de ferraille, des blocs de béton, soit qui datent de la construction, soit qui ont été progressivement détachés. Donc c'est très très dangereux.
Sophie,
et puis dans les canaux, oui. Les berges, oui.
Non, je voulais vous poser la question. Voies navigables de France gère au total 6000 km de voies d'eau. Est-ce que vous avez vraiment les moyens de tout surveiller?
Alors, non seulement nous n'avons pas les moyens, mais ce n'est pas dans nos prérogatives. Les baignades ne sont jamais organisées directement par Voies navigables de France. Nous gérons l'infrastructure qui permet de faire le passage des bateaux, le passage, la distribution d'eau, etc. Mais les zones de baignade sont aménagées souvent par les collectivités. Et donc nous travaillons avec les collectivités pour rendre possible ces zones de baignade. C'est à certains endroits très particuliers où on doit pouvoir gérer par exemple la coactivité, c'est-à-dire le passage de certains bateaux à un endroit particulier et puis une zone réservée à la baignade en toute sécurité.
Ce que vous avez mis en place à Voies navigables de France, c'est une oui. campagne. Hein, ça coule pas ton été, alors là c'est coule pas ton printemps. Vous essayez de sensibiliser autant les jeunes que leur entourage, leur famille, leurs parents notamment.
Oui, alors on a une communication directe sur nos ouvrages, sur les linéaires. On affiche directement sur les sites cette campagne avec des affiches très explicites qui montrent les risques. Nous communiquons, comme aujourd'hui, nous essayons de parler directement à l'ensemble des personnes concernées. Malheureusement, ce sont plutôt des jeunes qui sont concernés. Par exemple, l'année dernière, sur 169 personnes qui ont perdu la vie par noyade dans les plans d'eau, dans les cours d'eau, il y avait 33 mineurs. Et c'est 21 personnes de plus que l'année 2024. Donc on voit que les mineurs sont particulièrement concernés. Et nous appelons aussi l'ensemble des organismes qui travaillent avec les mineurs, alors dans le milieu scolaire, mais aussi périscolaire, dans les clubs sportifs et autres, à relayer cette campagne. Elle est disponible sur nos sites, sur l'ensemble de nos moyens de communication. Et ces affiches, l'ensemble des flyers peut être utilisé pour sensibiliser et rappeler aux jeunes la dangerosité des zones de baignade non surveillées.
Merci beaucoup Sophie Charlotte Valentin. Je rappelle que vous êtes la directrice territoriale Nord-Est chez VNF, Voies navigables de France, qui donc est en lien avec les collectivités pour surveiller ces cours d'eau en France. Et puis on vous attend aussi au 32-16 chez vous, je pense notamment aux parents, vous l'entendiez, ce sont surtout les jeunes qui sont victimes de ces accidents avec ces comportements à risque. Est-ce que vous les craignez? Est-ce que vous avez vous-même sensibilisé vos enfants? Vous nous le dites au 32-16 et sur le WhatsApp au 06 12 424 424. Il est 6h49 sur RMC, sur RMC Story. Élise, c'est l'heure de nous rappeler les trois grands titres de l'actu.
Et on rappelle ces chiffres, hein, 13 départements en vigilance orange canicule, plus de 400 records mensuels battus ou égalés hier, et des pointes à 39 degrés attendus demain, jour où le Premier ministre va tenir sa réunion interministérielle. 3 ans de prison, dont un enferme sous bracelet électronique requis hier contre un animateur du périscolaire parisien. C'est dans ce contexte que le gouvernement présente ce matin au Conseil des ministres son projet de loi pour la protection de l'enfance. Projet de loi qui prévoit notamment la systématisation des contrôles d'antécédents judiciaires pour tous les adultes au contact d'enfants professionnels et bénévoles. Et puis, ouverture de la plateforme pour demander l'aide grand rouleur dans un peu plus de 2 heures à 8 heures sur le site des impôts pour faire face à la flambée des prix du carburant. Aide qui va doubler pour passer à 100 euros.
Il est 6h50 sur RMC, sur RMC Story. La bande est là, c'est parti. Anthony Morel pour la tech. Rebonjour Anthony, mais je me tourne avant tout vers Virginie Fulpin. C'est la causerie La France retrouve le sourire. À Roland-Garros, c'est pas tous les ans, c'est important de le dire. Grâce à Moïse Kouamé, à 17 ans, il s'est qualifié hier pour le deuxième tour en éliminant Marin Cilic, quand même, hein, un ancien numéro 3 mondial qui a plus du double de son âge.
Ouais, alors on connaissait Moïse et la mer rouge, le voilà maintenant sur la terre rouge. C'est bon, ça, c'est fait,
ça, c'est
j'insiste
bon.
Pas sur le fait. S'il est prophète en son pays, ça ferait trop, ouais, on est d'accord. On pose la Bible et on ouvre plutôt le livre des records, 17 ans. Ça faisait 35 ans qu'on n'avait pas vu un gamin aussi jeune passer un tour à Roland-Garros quand Moïse Kouamé est né en 2009. Ouais, ça fait mal, hein. Son adversaire d'hier avait 21 ans et il était 14e mondial. On rappelle quand même que Marin Cilic a beau avoir perdu de sa superbe aujourd'hui, ça reste un ancien vainqueur de Grand Chelem, hein, l'US Open 2014, pour qu'on mesure bien ce qu'a accompli le Français hier du haut de sa 318e place mondiale. Bon, cela dit, au 1er janvier, il était au-delà de la 800e place. Hein. C'est un peu comme si la fusée avait décollé en 2026. 17 ans, il n'en fait pas toute une affaire. Tu ne me parles pas d'âge, comme dirait Kylian Mbappé.
Et ça a été un grand moment, ce match de Moïse Kouamé.
Ben, c'est ça qui nous fait aimer Roland-Garros. Honnêtement, si le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, remporte le tournoi, tant mieux pour lui, c'est super. Mais jamais il nous fera vibrer comme Moïse Kouamé hier, par exemple. C'est de l'émotion, le tennis, particulièrement un grand chelem à la maison, avec un Français que beaucoup découvrent aujourd'hui. Ça fait partie des charmes du tournoi. En plus, Moïse Kouamé a harangué la foule, il a joué avec le public. Alors, au lendemain des adieux du showman Gaël Monfils, on est bien content de trouver un petit nouveau qui nous fait vibrer par son attitude, par son jeu, par son physique impressionnant et par la surprise qu'il suscite. Un petit gars de Sarcelles de 17 ans qui vient dépoussiérer les cours un peu.
Alors, je vais me protéger pour vous poser cette question, Virginie Fulpin. Attends, ça y est, on l'a le nouveau Yannick Noah.
Stop.
Allez, je me doutais.
Ouais. Il a 17 ans. Je ne sais pas si je vous l'avais dit déjà, hein, il a 17 ans. Jusque-là, Moïse Kouamé, malgré son ascension fulgurante, il n'a remporté que des tournois de 3e division. C'est normal, il vient d'arriver, il est tout jeune. Après Roland-Garros, il va retrouver ces tournois-là. Il va sans doute passer au tournoi de 2e division, les Challengers. D'ailleurs, il a parfaitement conscience que non, il n'est pas arrivé déjà au sommet. Là, il vient de réussir un très grand coup. Ça lui permet d'engranger une expérience qu'il trouvera nulle part ailleurs, mais il ne va pas gagner Roland-Garros. Non, en tout cas, pas tout de suite. Il a passé le premier tour. C'est 7 matchs à gagner, hein, quand oui, même, bah, hein, oui. Un tournoi du Grand Chelem. Donc là, on se réjouit, on profite, on le laisse bosser. Voilà, ça tombe bien, c'est exactement son but. Donc désolé Arthur Rimbaud, mais oui, on peut être sérieux quand on a 17 ans.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, Anthony, pour C'est déjà demain. C'est un objet qui a pris un gros coup de vieux en très peu de temps. Les enceintes connectées type Google Home ou Amazon Alexa, très populaires il y a quelques années, elles ont souvent fini au placard et elles sont en train de connaître une deuxième vie grâce à l'intelligence artificielle.
Oui, absolument. Je ne sais pas si vous en avez à la maison d'ailleurs, des enceintes connectées. À une époque, là, tout le monde s'offrait ça à Noël, les petites Amazon Alexa. Pardon d'ailleurs pour ceux chez qui on a déclenché, du coup, en prononçant le mot magique, l'enceinte. Parce qu'à chaque fois que je fais des chroniques sur ces thématiques-là, je me fais enguirlander après sur les réseaux sociaux. Ouais, ça a déclenché. Bah oui, c'est forcément. Donc pardon, je vais dire un mot magique à la place. Bon, très très bien. Alors effectivement, elles ont été très populaires, mais en fait, elles avaient des grosses limitations techniques. C'est-à-dire que si vous les avez déjà utilisées, vous savez qu'on ne peut pas enchaîner deux phrases et qu'on ne comprend pas bien. Il y a de la latence et donc tout ça à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de ChatGPT, de Gemini, c'est devenu complètement ringard. Et donc là, l'idée, eh bien, c'est que Amazon, Google aussi, ont injecté dans leurs vieilles enceintes, eh bien, les nouvelles générations d'intelligence artificielle. Et ça les rend beaucoup plus intelligentes par définition. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une discussion en langage naturel, comme on est en train de discuter là. Et puis elles vont avoir des nouvelles fonctionnalités. Elles vont comprendre ce que je veux faire. Par exemple, si j'ai un peu chaud, j'ai un peu chaud à la maison. Elle va lancer la clim quand on a une clim évidemment et qu'elle est connectée à l'enceinte. Mais vous comprenez le principe, il y a une intelligence contextuelle. On va pouvoir lui demander de réaliser des tâches pour moi. Réserve-moi un restaurant à 19h, en lui donnant le nom du restaurant évidemment. Elle va gérer la réservation pour moi. J'ai même plus besoin d'aller sur le site ou sur l'application. Achète-moi des billets de foot pour tel match avec tel budget. Et elle va aller sur le site, récupérer les places et acheter les billets. Il faut quand même que je paye à la fin, hein, mais oui. C'est l'IA qui s'occupe de tout. C'est quand même génial. Et même chose, elle va se connecter à tous les objets de la maison, y compris la télé par exemple. Donc si par exemple je suis devant ma télé puis j'aimerais bien revoir le film là. Ah, le film où il y a un gars, il revit toujours la même journée plein de fois. Je sais plus comment ça s'appelle. Elle va comprendre de quoi
un
je parle.
Enfin.
Exactement. Il n'y a pas besoin.
Géraldine
beaucoup mieux qu'Alexa, évidemment. Mais tout le monde n'a pas Géraldine dans son salon. C'est ça le problème. Et donc du coup, elle va comprendre. grande, elle va lancer le truc. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment on entre dans ce qu'on appelle l'ère de l'IA agentique, l'IA qui est capable de réaliser des tâches pour moi, y compris via ces enceintes connectées.
Eh bien, on testera ça, en tout cas. En un seul mot, faut en prendre une nouvelle ou...
Non, ça fonctionne avec les anciennes, et ça vient juste d'être lancé, là, ça a été lancé hier.
Merci Anthony.
Bonjour Apolline.
Salut,
comment
tout
ça va
le monde
ce matin?
Eh ben écoutez, ça va bien, mais chaudement, oui, oui. Très chaudement. Je pense évidemment à chacun de vous. J'espère que vous avez réussi à dormir. Vous connaissiez peut-être les passoires thermiques, ces logements impossibles à chauffer l'hiver. Eh bien, vous subissez sans doute les bouilloires thermiques. Les bouilloires thermiques, ce sont ces appartements ou ces maisons impossibles à rafraîchir, impossibles à refroidir. Des températures qui parfois dépassent les 40 degrés à l'intérieur. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous réussissez à rafraîchir votre logement ou est-ce au contraire, c'est cette bouilloire thermique que vous n'arrivez pas à rafraîchir. Appelez-nous, témoignez, dites-nous, on a des solutions et on vous informe tout au long de la matinée. À tout de suite.
5-7, le Morning RMC.